aujourd'hui, en tout, on le reconnaît pour des questions de culture, de vision du monde, de structure mentale, de philosophie. Quand un dit personne, l'autre il entend nature. Enfin, c'est des quiproquos incroyables et qui sont liés aussi à l'insertion politique des églises, parce que comme par hasard, ils sont aux franges de l'Empire ou en dehors de l'Empire, toutes ces églises orientales. Vous voyez, quand se tient le concile de Chalcédoine, par exemple, l'Arménie, elle est attaquée par les Perses, elle fait appel aux Byzantins qui disent non, on a autre chose à faire. Un siècle après, ils retrouvent qu'on a défini quelque chose concernant le mystère du Christ sans eux et ils ne le comprennent pas. Voilà. Donc ça, c'est les premières grandes divisions, l'Arménie, l'Égypte, la Syrie, que ce soit syriaque, orientaux ou occidentaux, entre Tigre et Euphrate, en gros, etc. Puis par conséquence, l'Éthiopie, se sont trouvés coupés de la communion des églises à ce moment-là, alors que les conciles, théoriquement, auraient dû refaire l'unité. Mais ils étaient convoqués par l'Empire byzantin, pas par l'Empire perse, où il y avait des églises. Voilà. Tout ça c'est des jeux de géopolitique incroyables. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'Église catholique, la nôtre, donc, qui a une passion pour l'unité. Vous savez, vous regardez la place Saint-Pierre de Rome, vous voyez comment elle est faite. Ça dit quelque chose de notre Église. On va accueillir plein de choses. Après, débrouillez-vous pour en faire l'unité, peut-être, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, elle a voulu proposer la réunion, mais elle l'a fait. Ce n'est pas une réunion entre Églises. Ça a eu un résultat, c'est de couper les Églises d'Orient en deux. Et alors, comme il y avait des Églises orientales catholiques, coptes catholiques, syriaques catholiques, les Chaldéens par rapport à l'église assyrienne de l'Orient. Voilà, toutes ces églises étaient coupées en deux, avaient deux branches. Alors on a appelé les autres orthodoxes orientales pour dire qu'elles n'étaient pas catholiques. Et c'est comme ça qu'on distingue de l'orthodoxie byzantine, qui était l'orthodoxie de ces fameux conciles tenus à l'intérieur de l'Empire byzantin. Voilà. C'est ce que ça suffit comme type de première réponse.
Vous pouvez le retrouver en allant sur l'évolution du christianisme. Je viens tout juste de le rechercher sur un moteur de recherche Google. Vous entrez « évolution du christianisme » et vous allez pouvoir repérer, en fait, sur une trame chronologique, les grands moments forts. Donc là, ce qui concernera cette journée, c'est le concile de Nicée, d'ailleurs j'en y reviendrai, et puis les premières divisions qui ont eu lieu au concile d'Éphèse, avec les églises nestoriennes qui sont devenues donc les Assyriens au deuxième concile. Donc on ne traite pas parce qu'on reste, comme disait Anne-Marie, sur l'église byzantine. Au quatrième concile de Chalcédoine en 451, vous voyez donc les miaphysites, ce qu'on va appeler, et puis il y a eu toute une discussion sur qu'est-ce que miaphysis, une nature, veut dire. Donc c'est une question principalement de terminologie, donc il y avait un besoin donc de clarifier les termes qui ne pouvaient pas se faire pour des raisons politiques, économiques. Donc on va essayer, et c'est le moment de cette partie de notre cours, présentation de l'orthodoxie, où on va voir quelles sont les complexités internes qui ne permettaient pas, en fait, de clarifier et d'aller au bout des dialogues. Et donc, les miaphysites, ce sont des orthodoxes orientaux. Et après, on arrive au grand schisme. Voilà.
Alors, quand on fait de l'histoire ou de l'histoire des dogmes, etc., quand on tombe sur tous ces mots-là, on a la tête qui enfle. Hein. Et donc, mais essayez de penser dans votre paroisse. Vous êtes le Vendredi Saint, vous avez un groupe de cathés ou un groupe de jeunes et vous méditez sur Gethsémani. Et alors, vous sentirez tout de suite qu'il y a certains chrétiens, catholiques en l'occurrence, qui sont plus sensibles au fait qu'il est vraiment homme et donc il souffre effectivement, et il entre en agonie. Et d'autres qui diront oui, mais quand même... Ça veut dire que le mystère du Christ, personne n'a la main dessus. les définitions conciliaires, celle du concile de Chalcédoine en 451, vraiment Dieu, vraiment homme, c'est une ligne de crête sur laquelle on est invité à se tenir les uns et les autres, et on a besoin les uns des autres, parce que moi je suis peut-être plus sensible à l'humanité du Christ, et un autre sera plus sensible à sa divinité, et penser ça comme un problème existentiel de relation au Christ. À ce moment-là, les mots vont prendre un peu de chair. Voilà.
Voilà. Maintenant, nous entrons dans cet enracinement historique des églises orthodoxes. On peut distinguer trois grandes périodes. Donc, le premier millénaire, où on est ensemble. Le deuxième millénaire, donc c'est les séparations, mais donc on peut aller de cet estrangement des églises, et puis les enjeux pour venir à l'actualité de l'orthodoxie à partir donc du XXe siècle. Au premier millénaire, les orthodoxes, ou en tout cas l'orthodoxie, est inséparable de l'appropriation de ces premières communautés chrétiennes qui se trouvent à Jérusalem, qui ont vu jour à la suite donc, de la mort et la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ. Donc l'Église chrétienne, le Christ est vraiment en centre. Le christianisme antique, qui se sépare progressivement du judaïsme, tout en s'ouvrant aux païens, forge le cœur de cette identité des chrétiens autour de la célébration de l'Eucharistie, pendant laquelle le corps et le sang du Christ sont distribués sous la forme de pain et du vin. Après les premières communautés chrétiennes, se trouvent d'abord concentrées, qui se trouvaient à Jérusalem, elles vont se fonder essentiellement sur le témoignage des apôtres, qui étaient les premiers disciples du Christ. Après donc, l'avènement de la Pentecôte, et là je vous ai mis l'icône de la Pentecôte, et donc pour, si vous voulez, les orthodoxes, c'est le début de l'Église. La Pentecôte, la descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres dans la chambre haute, c'est le commencement de l'Église. Pour certains, ils vont dire, voilà, c'est la scène, peut-être avec le Christ, voilà, qui partage le pain et le vin, voilà. Mais voilà, c'est la Pentecôte. On peut dire que le commencement. Et à la suite donc, de cette prédication, hommes et femmes, donc de premiers disciples, des apôtres, commencent à être baptisés dans les diverses contrées de l'Empire romain. Donc ils vont à Phénicie, Chypre, Antioche, selon les actes des apôtres, 11, 19, on voit que voilà, le christianisme commence à se propager. Et c'est là qu'ils reçoivent la première fois l'appellation de chrétien. Donc je vous ai donné cette citation de l'acte 11, 26, où ils, donc, en pensant Barnabas et Saul, à l'époque Saul ou Paul, passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église et à instruire une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples.
Et donc, y a des églises qui sont encore du patriarcat d'Antioche, qui sont sur notre territoire, qu'elles soient des églises orientales, orthodoxes, ou qu'elles soient orthodoxes byzantines. Et je trouve, j'ai envie de faire une remarque, c'est parce que vous vous rendez compte que sans Antioche, nous n'existons pas. Toute l'évangélisation vers l'Asie mineure est partie de là, hein, et que le fameux Irénée de Lyon est un disciple de Polycarpe, qui était évêque d'Izmir, dans la Turquie actuelle. Et donc, on vient de ce monde-là. Et vous vous rendez compte que des émigrés qui arrivent, appauvris, fuyant le génocide de 1915 pour les Syriaques, cette grande église humiliée, qui a subi des persécutions, et que nous, nous risquons des fois de regarder d'un peu haut. Il faut quand même reconnaître que le rapport des Français avec ceux qui arrivent n'est pas toujours de grand respect. Et là, se dire, je suis devant moi, s'il y a une église mère, c'est celle-là. Vous vous rendez compte le retournement que ça nous demande? Tout n'est pas né à Rome. Et ça, beaucoup de catholiques ne l'ont pas encore intégré vraiment.
En tout cas, c'est aussi le contact donc, de la culture romaine, on dirait, parce que c'était le grand empire romain, que des grandes cités de l'empire vont être les premières structures aussi administratives de l'Église. Et elles vont voir progressivement naître le jour. Et donc là, on mentionnait Antioche, mais il y avait aussi Alexandrie. Donc là, on va voir aussi les premières diversités entre les deux grands pôles. Enfin, Alexandrie, après Rome, c'était le grand port, le grand marché, le foisonnement de différentes cultures qui se rencontraient. Donc c'est une grande école de tradition, d'interprétation de la Bible qui va voir le jour. Et puis qui va aussi différer de l'Antioche, qui aura une autre approche justement de cette lecture des évangiles. Et la célébration restera plus ou moins la même avec les petites divergences, mais cela veut dire aussi que pour ces premières communautés, ce qui était au centre, c'était l'évangile, donc la tradition reçue une fois, elle a été d'abord orale, ce qui était totalement normal, enfin Christ n'a jamais rien mis par écrit, mais elle a été transmise aux uns et aux autres, et pour pouvoir la garder dans ce temps de l'acculturation, ils l'ont mis par écrit. On ne va pas faire toute une lettre sur tout un cours sur les Écritures, mais cela me semble être important parce que c'est d'abord au sein de ces mêmes communautés chrétiennes qu'on va voir apparaître des systèmes de pensée, justement par ce rapport très proche avec la culture païenne grecque qui était là, une fois, qu'est-ce qui s'est produit ? L'Empire, et donc c'est ça qui va en quelque sorte marquer les esprits, l'Empire va devenir réuni avec Constantin. Et donc après des premières persécutions des chrétiens, donc vu l'importance que le christianisme et les communautés chrétiennes occupaient dans cet empire, au début, les écrits, les apologètes montrent qu'on n'arrive pas à les reconnaître. Qui sont finalement ces chrétiens ? Il vient de se nommer chrétien à Antioche, mais pour les païens, enfin les citoyens de l'Empire romain, c'était une secte juive et elle n'intéressait pas énormément. C'est au moment où ils commencent à apercevoir des distinctions que les chrétiens vont mettre en avant en se comparant aux juifs. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils disent manger le sang et le corps du Christ. En plus, ils ne veulent pas, ils se appellent frères et sœurs entre eux et pourtant ils se marient. Qu'est-ce que c'est cette communauté-là qui ne veut pas, et là ça devient un grand danger, proposer le sacrifice en honneur de l'empereur qui est quand même un représentant de Dieu sur terre. Donc les communautés chrétiennes grandissent dans l'Empire, ils ont un enseignement qui n'est pas conforme à la logique de la vie de l'Empire, des cités, et en plus ils risquent d'être une forme d'opposition à l'empereur. Parce que, il y a quand même, si vous devez aller faire aujourd'hui, je ne sais pas ce que je pourrais comparer à cette réalité, mais vous ne témoignez pas de votre loyauté, c'est immédiatement reçu comme un énorme danger. Et surtout que ces communautés grandissent. Et les premiers écrits, donc les apologètes, vont justement, ce qu'on peut voir là-bas, essayer d'écrire contre ces mauvaises interprétations. Et ce qu'ils soulignent, mais c'est de l'ignorance. En fait, vous ignorez ce que les chrétiens disent d'eux-mêmes, allez lire. Vous voulez vous tenez sur la justice, et vous les persécutez, mais vous les persécutez non pas pour une raison juste, mais pour les raisons de non-compréhension. Et là, voilà, c'est autour de cela que commence à se, disons, établir un dialogue avec les communautés païennes. Néanmoins, lorsque ce produit donc cet événement où l'empire est réuni donc sous Constantin qui va ramener donc déplacer le siège de ici donc de Rome vers Constantinople, donc c'est aussi un élément qui va jouer dans les rapports de force, de compréhension logique. Comment est-ce que cette ville qui va être créé et portera le nom de Constantin Ier. Donc, pourquoi est-ce que c'est un empereur important, c'est parce qu'il a signé le, ou il a publié et promulgué l'édit de Milan en 313. Pourquoi celui-ci est important dans le contexte des communautés chrétiennes? C'est qu'on commençait à reconnaître les chrétiens comme étant une des religions de l'Empire. Donc il est reconnu et rendu égal aux autres. C'est la fin aussi des persécutions des chrétiens qui ont été persécutés pour des raisons mentionnées tout à l'heure. Parce que c'était chaque fois quand le Néron a brûlé Rome, c'était quand il y avait le grand incendie à Rome, pour Néron, c'était les chrétiens qui voulaient s'opposer à l'Empire. Donc je ne vous apprends rien d'important, j'imagine que vous connaissez tout ça. Mais l'avènement de Constantin permettait en fait de reconnaître, d'arrêter les persécutions. Pourquoi ? Bon, on peut aller questionner la foi de Constantin, il s'est converti, il est devenu chrétien avant de mourir sur son lit de mort. Mais qu'est-ce qu'il cherchait ? Il cherchait à apaiser les conflits et il s'est rendu compte qu'entre les chrétiens, il y avait pas mal de conflits. Pour arrêter ces conflits-là, il dit « je vais les reconnaître, mais je vais également les rassembler pour qu'ils puissent discuter ensemble » des éléments qui les divisent entre eux, parce que les premières divisions sont aussi advenues. Par exemple, la célébration de date de Pâques. Je signale ça comme étant un élément important. Pourquoi ? Parce que le concile de Nicée, qui nous est réuni ensemble, a eu lieu en 325. Et en 2025, on va célébrer 1700 ans ensemble, depuis donc concile. Et encore une fois, c'était le concile où on a discuté, on s'est mis d'accord entre chrétiens qu'on va célébrer ensemble le jour de Pâques. Et en 2025, ce qui est une chose aussi fort intéressante, que la Pâques tombe au même moment. C'est vraiment un événement à retenir, ne pas oublier, et peut-être percevoir dans la logique de ce qu'on vient de discuter à présent. Je vais maintenant entrer sur ce événement Constantinople. Il devient, dans la logique de l'Église orthodoxe, en tout cas ça impacte aussi la compréhension de l'Église orthodoxe, même de nos jours. On a parlé aujourd'hui en ouvrant le cours Constantinople-Moscou. Vous allez voir qu'il y aurait des centres différents dans le monde orthodoxe à travers l'histoire. Donc Constantinople, une fois que l'Empire est transmis de Rome vers Constantinople et va se construire le discours, c'est deuxième Rome. Aujourd'hui, par contre, il y a aussi dans les discussions inter-orthodoxes, puisqu'on aime bien se chamailler entre nous, on va dire, oui, mais Rome, c'est quand même un grand lieu des apôtres. Enfin, Pierre et Paul sont morts là-bas. Enfin, c'est une ville qui est émergée sur le martyr. Or, Constantinople, c'est une ville du centre impérial. Donc, ça ouvre à quoi ? Une réflexion du rapport qui va s'établir entre l'Église et l'Empire. Donc, depuis le début, avec Constantinople, ce lien est fort important. Et vous voyez ici, sur cette photo, la cathédrale, enfin la grande cathédrale Sainte-Sophie, qui a été érigée justement pour montrer aussi. Donc là, elle a été par la suite déjà détruite, après reconstruite, et à un moment donné, elle a eu le statut de mosquée, parce que lors des invasions ottomanes, ils ne détruisaient pas les lieux de culte. Il le simplement transformait en des mosquées. Et aujourd'hui, c'est une question qui revient, parce que pendant Atatürk, elle a été instituée en tant que musée. Et aujourd'hui, donc, le grand débat, c'est qu'elle est de nouveau devenue mosquée. Donc on a couvert toutes les fresques, tous les mosaïques, pour justement ne pas voir les traces chrétiennes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce empire byzantin qui est advenu donc à ce moment-là avec Constantin ? Après Constantin, il y avait Théodose qui, en 380, va édité un deuxième document. Donc on parle souvent des 10 2000 ans de 313, mais avec Théodose II en 380, ça aussi un élément important, il va dire que le christianisme est la religion de l'État, de l'Empire. Donc là, ce n'est plus au même rang qu'avec les autres religions, mais ça devient la religion de l'Empire. Jean Meindorf, un historien de l'Église orthodoxe, assez influent donc du début de ce siècle, va noter pour le pouvoir politique, il ne s'agit pas uniquement d'adopter une nouvelle religion, mais de faire de la foi chrétienne un principe de l'unité impériale. Et c'est là que va se jouer tout l'enjeu. Donc les questions dogmatiques, théologiques vont être de près regardées avec les intérêts politiques. Et tout au long des grands conciles écuméniques, vous allez avoir vraiment des questions de l'ordre théologique qui vont être soulevées. Par exemple, lors de ce concile, qui est le premier concile écuménique qui a eu lieu à Nicée, la question qui s'était posée et qui est tout à fait compréhensible, elle a été soulevée en Alexandrie avec Arius, qui était prêtre, et qui va dire, mais attendez, on dit qu'on croit en un seul Dieu, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il est à la fois Trinité, qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Les Écritures qu'on a disent que le Christ a été créé. La sagesse m'a créé avant tous les siècles. Alors, on peut facilement juger toutes ces personnes qu'on a désignées hérétiques aujourd'hui, facilement 2000 ans après, mais il faut se mettre dans leur chair. Enfin, ils n'avaient pas toute cette théologie que nous avons aujourd'hui, mais ces questions du contact proche avec maintenant les philosophes antiques, quand même, qui ne sortent pas de nulle part, mais qui ont longtemps réfléchi sur l'unité du principe, sur la façon de penser ce qui est vrai. Donc, ce qui est vrai, c'est ce qui ne passe pas. Donc, est-ce qu'il y a une idée selon Platon? Est-ce qu'il y a un néon, une idée, une plénitude, un plérôme selon les systèmes néoplatoniciens? Est-ce qu'il y a un seul moteur? Enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui est vrai, absolument vrai, et ce qui est mouvant, que change? Donc, maintenant, ce sont ces questions-là, étant donné que le christianisme est devenu la religion de l'Empire, qui vont entrer. Parce que ce n'est pas simplement parce qu'on croit et on veut être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et que cela va de soi qu'on intègre les communautés chrétiennes, on va les intégrer parce que ça vous permet d'intégrer les réseaux politiques. Et donc on entre, mais en entrant, on va commencer à poser des questions de l'ordre plus spéculatif, donc qui vont dissocier du message apporté par la Bible. Et au concile de Chalcédoine, de Nicée, il y avait ce terme de consubstantialité, en fait, pour dire que le Fils est consubstantiel au Père, qui a été ahurissant. Enfin, ils ont dit, mais vous introduisez des termes qu'on ne trouve pas dans la Bible, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est pour vous montrer quelle complexité existe, et que montrer aussi un point important, c'est que la réception de ce terme-là a attendu une cinquantaine d'années, c'est-à-dire le concile prochain, pour que les chrétiens entre eux se mettent d'accord et disent, voilà, ça c'est l'expression de la foi qu'on reconnaît dans nos églises et qu'on reçoit. Parce que dans les églises, un autre principe qui est important, fondamental, c'est que la foi n'est pas imposée, elle doit être reçue. Or, on l'explique. Et l'explication qui est donnée par des différents pères est reçue par les communautés, méditée, est mise en lien avec la célébration, c'est-à-dire la vie spirituelle. Et dans l'optique des orthodoxes, toutes ces questions sont importantes. Pourquoi? Non pas parce qu'il faut spéculer pour spéculer, faire de la théologie pour faire de la théologie, mais parce que c'est en lien avec la vie, c'est-à-dire le salut de l'homme. Si le Christ est simplement une créature, bah alors en quoi est-ce qu'il est mon sauveur? Un homme qui peut sauver aussi moral, aussi saint, aussi parfait comment est-ce qu'un homme peut sauver l'humanité? Donc il doit être Dieu. Mais comment maintenant on peut leur dire Dieu sans trahir le principe de l'unicité divine?
On retrouve ce qu'on disait, le mystère central, un des mystères centraux du christianisme, c'est le Christ vraiment Dieu, vraiment homme. Personne n'arrive à tenir bien et tout au long de l'histoire, c'est comme des variations sur un thème connu, c'est-à-dire ça se joue dans la philosophie, dans une théologie plus spéculative avec la philosophie, mais ça se joue aussi en spiritualité, etc. Le débat entre Antioche et Alexandrie que tu as évoqué est tout à fait lié à ça. Des sensibilités plus grandes à l'humanité, des sensibilités plus grandes à la divinité. On retombe toujours sur cette même chose. Et donc, ça, c'est une clé importante à avoir, c'est qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres. On a besoin les uns des autres pour tenir cette ligne du mystère du Christ. Donc, ce n'est pas une recette de cuisine, vraiment Dieu, vraiment homme, hein. Ce n'est pas 50-50, c'est quelque chose qui est lié à notre expérience profonde. Et ce n'est pas seulement des aspects de spéculation, c'est que, comme Julia vient de le dire, s'il n'est pas vraiment Dieu, qu'est-ce qu'il peut pour moi? Mais s'il n'est pas vraiment homme, en quoi ça me concerne? Ça, c'est du Grégoire de Nazianze, en Cappadoce, au IVe siècle. Hein. Voilà. Et donc, se rendre compte qu'il faut toujours revenir à l'aspect de la foi vécue. Mais à un moment donné, on est obligé d'en rendre compte. C'est comme, par exemple, vous êtes amoureux. Vous allez voir vos parents, vous dites oh, « moi j'aime cette femme, ou j'aime ce garçon, etc. » Oui, c'est cette foi, confiance, qui est adhésion à une personne. Puis en même temps, les parents ils vont vous demander sa profession. Enfin, c'est sérieux, il faut en rendre compte. Il y a toujours ces deux pôles. Donc il y a la foi, le mouvement de la foi, qui est très bien rendu dans le credo de Nicée-Constantinople, justement, parce que si on traduisait littéralement, on dit « nous croyons vers », c'est mouvement, je suis en chemin vers une relation. Hein, voilà. Et puis, il faut en dire quelque chose. Et c'est pour ça aussi que dans ce même credo, dans ce même symbole de foi de Nicée-Constantinople, avant de dire consubstantiel, il y a un petit mot grec, « oti », c'est-à-dire « c'est-à-dire ». Et à un moment donné, on dit sa foi, mais c'est-à-dire qu'il faut que j'en rende compte à un moment donné. Alors, on est tout le temps, nous, les chrétiens, en train de refaire ce petit oti. Si vous êtes avec vos voisins qui contestent votre foi, ou si vous discutez en famille, chaque fois qu'on fait de la théologie, on rentre dans la dynamique de ce credo. Il est Dieu des deux dieux, lumière née de la lumière. Ah oui, mais ça veut dire quoi? Oti, alors j'en rends compte. Et c'est là qu'arrive la théologie.
Tout à fait. Elle est entièrement basée donc à ces questions posées par l'extérieur et réfléchie à l'intérieur des spécificités de chaque culture. Donc là, vous avez deux grands mondes, antiochien qui va développer une exégèse des Écritures en allant de près de texte. Ils vont vraiment être sensibles à la chair du texte. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment elle le formule? Quels sont les éléments qui sont mis en avant? Et vous allez avoir, d'autre part, Alexandrie plus proche des spéculations plus philosophiques, symboliques, qui va aller partir immédiatement dans les interprétations du texte. Et c'est ce travail-là qui va se faire tout au long des sept conciles œcuméniques de réajustement. Or, ce réajustement prendra en compte les positions des uns à un moment donné ou ne les prendra pas. Pourquoi? Parce que ces événements s'inscrivent dans le contexte historique. Donc, Anne-Marie a déjà parlé de cette non-présence des Arméniens, par exemple, au Concile de Chalcédoine. Avant le Concile de Chalcédoine, vous avez eu Éphèse, et je vous ai donné la liste pour ne pas maintenant aller regarder ensemble chacun des conciles. Mais Éphèse, il y a un débat entre Cyrille d'Alexandrie, qui est quand même assez puissant, puisque c'est lui qui convie le concile, c'est lui qui juge Nestor, c'est lui qui entre dans une discussion aussi entre Alexandrie et Constantinople, parce que Nestorius était patriarche de Constantinople. Il faut voir la complexité des réalités derrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il veut absolument que le concile se réunit, mais on doit attendre que Rome vient, donc des délégués romains, donc on tarde, et puis il s'impatiente. Il y a les Antiochiens qui ne sont pas venus. Or, il réunit le concile, enfin les évêques qui étaient sur place, Et là encore, on retrouve ce besoin que les évêques, parce que c'est les évêques qui représentent leur église locale, territoriale, en fait, ils viennent pour présenter les positions de leur église. Donc, territorialement, il y a ceux qui sont restés totalement dehors. Il y a la réunion du concile. Et les décisions sont prises. Et à ce moment-là, les Antiochiens arrivent. Ils disent, on arrive au concile, mais le concile a déjà eu lieu. Et donc, il y a la première séparation. Et c'est autour de ce type de séparation que les enjeux vont pouvoir, en fait, se multiplier avec de nouvelles réceptions ou non-réceptions. Donc, par exemple, le concile que moi j'apprécie particulièrement, parce que c'est un théologien que j'ai travaillé pendant de nombreuses années, Saint-Maxime le Confesseur, qui était un oriental, on discute encore, est-ce qu'il était de Constantinople, donc un secrétaire de l'empereur Héraclius, il est né en Palestine et donc porteur de cette spiritualité palestinienne, en fait des moines, et donc il se retrouve à Carthage, un simple moine. Donc on se dit, imagine, est-ce qu'aujourd'hui ça serait possible qu'un simple moine, vivant n'importe où, vient à Carthage et oppose l'ensemble de l'orthodoxie, du monde orthodoxe de l'époque. Donc là, je vous le montre sur le slide suivant. Donc, il se soulève contre l'empereur, il se soulève contre le patriarche à Constantinople, il se soulève contre le patriarche d'Alexandrie, il se soulève contre le patriarche d'Antioche, Jérusalem est déjà envahie, donc il y a des Perses et des Avars qui arrivent, donc il n'y a pas de patriarche. Il deviendra celui qui était à Jérusalem, à Carthage, et que Maxime a pu retrouver là-bas, et qu'il a initié au problème. Quel problème ? On discutait les natures, la personne du Christ. Enfin, comment est-ce qu'on peut dire que le Christ soit Dieu et homme à la fois ? Donc, quel rapport entre les deux natures ? Comment est-ce possible que la nature humaine reste en contact avec la nature divine sans disparaître ? Parce qu'il y a une piété, en fait. De l'homme veut se dissoudre dans la splendeur de la divinité, mais finalement, si c'était le cas, pourquoi de Dieu serait-il incarné ? Pourquoi il aurait créé le monde ? Enfin, il le juge bon, il veut que ce monde existe, mais non pas dissous en lui, mais en communion avec lui. Et donc, les Perses, les Avars arrivent, Constantinople est en énorme danger, donc l'Empire est en danger, l'Empire d'Orient, et vous avez toutes ces églises coptes, syriaques, arméniennes, qui sont séparées. Il faut les ramener à l'Empire. Il faut les persuader de rejoindre l'Empire pour pouvoir jouer une chrétienté unie pour s'opposer à des invasions barbares et des musulmans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ben, ils vont dire, allez, on s'est séparés pour des questions de terminologie, on va le discuter autrement, on va faire une réadaptation en ce qui concerne les volontés du Christ, en fait. On va dire, le Christ, oui, on a parlé des natures, mais si on va à la volonté, il n'a qu'une seule volonté divino-humaine. Donc, pour récupérer les termes qui peuvent unir. Et donc, un moine va dire, mais vous êtes à côté de la plaque. Enfin, vous dites des choses qui ne tiennent pas. Et là, heureusement qu'il y avait le pape de Rome, Saint-Martin, qui a été attentif à cette théologie, il réunit le concile de Latran et le pape de Rome avec donc ces moines palestiniens avec lesquels était Maxime le Confesseur va soutenir cette doctrine théologique. Je ne vais pas entrer dans les détails et ils vont être jugés par Constantinople, par l'empereur, comme étant ceux qui divisent, enfin qui mettent en danger l'empire. Les deux vont mourir en tant que martyrs pour que, une fois après, donc l'année après, le concile sixième se réunir pour finalement dire que la foi que eux ils ont soutenue, prêchée, que c'est la foi de l'Église. C'est pour vous montrer en fait toutes les complexités qu'il faut avoir à l'esprit dans ces débats. Donc les débats étaient théologiques. Mais derrière aussi, il y avait l'aspect de l'unité politique.
Il faut dire aussi que Constantin, une fois qu'il est établi dans sa ville et qu'il l'appelle Constantinople, a voulu en faire aussi une ville repère d'une des grandes régions de la communion orthodoxe. Ça veut dire qu'il ampute le patriarcat d'Antioche de son territoire. Et ce faisant, il se met en deuxième position après Rome, parce que dans les conciles, on cite les grands sièges. Et donc, avant, on disait Rome, Antioche, Rome, Alexandrie, Antioche. Et voilà qu'on dit Rome, Constantinople, Alexandrie. Donc, dans le débat, vous voyez, entre Alexandrie et puis le pôle Antioche, hein, parce que Nestorius était patriarche de Constantinople, il y a cette affaire que Alexandrie s'est vue détrônée de sa place d'honneur de deuxième position. Voilà, si je dis toutes ces choses-là, c'est pour montrer que tout est pétri d'histoire, de politique, et que la théologie a bon dos. Je vais y revenir tout de suite. C'est là, je pense. Après, d'accord. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on appelle les facteurs non doctrinaux, que ce soit de séparation ou de réunion.
Donc, simplement pour ne pas donner une très mauvaise image de cette période-là, elle est politiquement complexe, mais elle est théologiquement très riche. Donc, si vous voulez, cette période, tout en étant complexe politiquement, elle est fondamentale pour l'Église orthodoxe. En quel sens ? Dans le sens que l'Église orthodoxe considère cette période comme étant l'âge d'or de l'orthodoxie. D'une part, ces conciles œcuméniques et locaux, on n'en a pas mentionné, mais autour il y avait des conciles locaux, par leur décision et toute la théologie des pères de l'Église qui est derrière, et par leur enseignement, offrent une telle synthèse religieuse des cultures, comme on a dit, sémitiques et grecques, que c'est impressionnant. Vraiment, si vous avez le temps, c'est peut-être un langage qui nous échappe aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à se saisir, mais si vous allez lire cet enseignement-là, il est vraiment très, très riche, lumineux, et en même temps, il est au fondement de notre foi. Il dit les raisons de la foi. Enfin, s'il faut la conceptualiser, elle est vraiment pensée de manière extraordinaire tout au long de cette période. Or, à la même période, on constate un autre élément. C'est l'apparition du monachisme. Or, pour les églises orthodoxes, le monachisme est tout aussi fondamental. Parce que vous avez eu des personnes qui, en étant en contact avec cette complexité de géopolitique et en fait cet engagement politique des églises, qui vont être touchées. Et ils vont dire, nous, on ne peut pas faire partie de cette église-là, on se retire dans les déserts, on se retire dans la prière et on va vivre la réception de tout ce qui est enseigné, de tout ce qui est dit dans ces conciles, mais aussi en lisant la Bible, on va vivre cette théologie. Et vous allez avoir un des grands théologiens, d'ailleurs l'église orthodoxe n'en reconnaît que trois, donc Saint Jean, le théologien, l'évangéliste, Saint Grégoire, le théologien, c'est Grégoire de Nazianze, et puis Saint Siméon, le nouveau théologien du XIe siècle. Donc, on est très. Donc, quand on nous dit vous êtes théologien, bon, on a un peu du mal à recevoir le titre de théologien. Donc, l'Église ne reconnaît que cela. Or, ce grand Grégoire, le théologien, on le nomme en fait patriarche de Constantinople. Il arrive autour de ce concile, deuxième concile donc, de Constantinople, donc symbole Nice et Constantinople, c'est là que les questions ont été débattues autour de la divinité de l'Esprit-Saint, parce qu'ils se sont rendus compte que les principes conceptuels appliqués à la divinité du Fils ne correspondent pas à celles du Saint-Esprit. Et donc lui, il arrive là et il voit que c'est un chaos. Enfin, il y a tellement de prétentions politiques derrière, il y a ce débat et il part. Il quitte, tout simplement, il se retire en tant que moine, donc de prier et de vivre sereinement la foi. Donc cet élément est tellement puissant dans les églises orthodoxes qu'il y a eu des moments que ceux-ci ont prévalu que sur ceux qui étaient des théologiens par la suite académiciens, et même aujourd'hui, vous avez ce grand débat au sein de l'orthodoxie, ceux qui vont vous dire « j'enseigne la théologie à la faculté ». Ça n'a rien à voir avec la théologie. La vraie théologie est dans les monastères, dans la vie quotidienne. Donc, on vous apprend l'humilité. Et vous vous dites, oui, effectivement, il y a une autre dimension de penser la foi et vivre cette foi. Et donc, pour l'orthodoxie, les deux mondes sont importants. Et c'est aussi à ce moment-là que cette distinction vient d'être faite. Donc, les concepts théologiques doivent être expérimentés. C'est pourquoi je vous dis, cet enseignement, il est spirituel. Enfin, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas une chose abstraite de penser la divinité de la Sainte Trinité et de penser le Christ. C'est vraiment, il faut être, que ça soit vécu. Ainsi, la 16 appelle la contemplation de Dieu. La théologie devient à l'intellect ce que la prière est au cœur, une grâce. Et même, il y avait un des grands théologiens orthodoxes serbes, Saint Justin Popovitch, aujourd'hui il est sanctifié, il disait la vraie théologie, c'est la doxologie. C'est au moment où vous arrivez à rassembler tous ces concepts et arriver à les chanter, parce que vous reconnaissez leur lumière de l'intérieur. En Orient, donc entre le 4e et le 8e siècle, s'opère une synthèse entre la spiritualité et le dogme, entre l'expérience des pères, on va dire les pères du désert, parce qu'ils n'ont pas rédigé grand-chose, juste quelques paroles qui étaient là, mises par écrit pour les méditer, plus que pour développer une théologie derrière. Donc on peut citer quelques noms, Évagre, Macaire, ou la personne qui est derrière, on ne sait toujours pas qui est, Jean Climac, avec son échelle sainte, et puis la formalisation d'une théologie qui est celle des pères de l'Église, on en a mentionné certains, Athanase d'Alexandrie, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome, dont on célèbre la liturgie, en tout cas ce qui reste de cette voilà, liturgie, est-ce que tout le texte de la liturgie est de lui? On n'est certainement pas, mais des prières, certaines prières de la liturgie viennent de lui. Donc, un point qui me semble aussi important à signaler pour l'orthodoxie, c'est la période patristique, voilà, comme j'ai dit, ne s'arrêtait pas à ce temps-là. Donc, il m'arrivait aussi, lorsque j'étudiais la patrologie à Belgrade, par exemple, les pères de l'Église sont considérés également ceux qui ont suivi après, donc Grégoire Palamas ou Nicodème Lagiorite. Et nous, on a appris comme étant les pères de l'Église les théologiens qui ont enseigné ici à Paris. Donc, pour nous, les pères de l'Église, c'est également Alexandre Schmemann, Jean Mayendorf, Georges Florovski, même si, bien sûr, eux ne sont pas encore reconnus comme étant les pères de l'Église. Néanmoins, ce point est important à signaler, c'est qu'ils ont dit une expression de la foi, l'expression de la foi pour leur temps. Et dans ce qui est dit, il y a ce qui est reconnu par l'ensemble de l'Église. Voilà, je me reconnais dans cette parole, dans ma vie de chrétien. Donc, je reconnais de ce qu'eux, ils ont formulé pour nous aujourd'hui, l'expression de ma foi. Ils ont su mettre les mots sur mon vécu. Berdiaïev, il est assez intéressant, mais Berdiaïev, il était plus, disons, philosophe. En fait, il faisait partie de cette philosophie religieuse russe qui, à un moment donné, a vu le jour dans la réaction, par exemple, à la philosophie allemande de Hegel. Et donc, eux, ils ont commencé à réfléchir sur des questions plus philosophiques, mais en leur donnant une couleur, en la mettant en dialogue avec la théologie de l'Église. Mais disons, il a abordé par moments des questions de théologie, mais non pas de manière vraiment théologique. Il n'était pas théologien, il était plus philosophe. Mais il y a une réception qui est assez importante de sa pensée au sein de l'Église orthodoxe. Voilà. Voilà. Donc, c'est. Je vous ai mis aussi une citation donc, d'Olivier Clément. Et on arrive à ce moment d'estrangement, de rupture, de communion entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Et là, on va pas mal échanger, discuter ensemble. Quelques points que moi je voulais soulever. Donc, on est en 1054. Cette date, on pourrait dire, elle est plus symbolique que réelle. Donc, 1054, à retenir. Empire, avant que éclate donc, cette crise entre ces deux pôles, pour revenir à notre pentarchie, parce qu'on voit ici Rome, et là on voit Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie. Ils ne se comprennent plus, les Orientaux et les Occidentaux. L'unité de ce monde méditerranéen a progressivement disparu. Anne-Marie en parlera davantage, mais vous voyez, il y a une coupure de rapport, et ça sera expliqué. Les langues qui sont utilisées ne sont plus comprises, donc le latin, le grec. Très peu de personnes parlent les langues dans des, enfin, au monde occidental, le grec, au monde oriental, le latin. Il y a les invasions barbares du 5e siècle qui ont affaibli durablement l'Empire d'Occident, et Anne-Marie y reviendra, et ça va avoir un impact considérable sur ce rapport. Et l'Orient n'est pas en reste face donc aux invasions qui viennent du nord et de l'est. On en a mentionné les Avars et les Perses pendant donc, les conciles écuméniques. Rome étant en difficulté, vu ces invasions, va décider pour se protéger de se tourner vers le royaume franc plus que vers Byzance qui ne répondait pas. En l'année 800, Charlemagne est couronné empereur par le pape Léon III et advient la création de Saint-Empire romain d'Occident. Comme nous pouvons l'imaginer, ceci n'a pas été favorablement reçu de Byzance. Comme d'ailleurs, maintenant ça suscite les questions d'autrefois, la transposition de siège de Rome vers Constantinople. Donc on est dans ces étrangements et dans ces éloignements. Donc l'éloignement linguistique, culturel aussi, l'héritage classique reste commun, mais la pratique donc des langues ne permet plus de les recevoir de même manière, aussi à la rupture qui ne tarde pas à s'inventer sur la scène religieuse, donc les deux églises qui ont développé des formes particulières aussi d'administration et qui ne posaient pas un problème jusque-là, le deviennent progressivement. Donc un théologien orthodoxe récent, il est mort récemment, Callistos Ver, il va définir ainsi cet éloignement. L'Église d'Occident devient centralisée à un point qui resta toujours étranger aux quatre patriarcats d'Orient. Elle devient une monarchie alors qu'en Orient, elle reste collégiale. Donc, à part ces étrangements politiques, linguistiques, on va avoir et reconnaître les éléments théologiques. Et là, je passe la parole à... Hop. Non, c'est toujours que je me trompe. Désolée pour ces temps de...
Voilà un autre aspect. Je vais vous présenter une modélisation d'un des aspects qui fait l'estrangement, ce qu'on appelle l'estrangement entre l'Orient et l'Occident. Une lecture de théologie politique qui a été proposée par un de mes collègues du Centre Sèvres, qui est décédé maintenant, Philippe L'Écrivain. Il dit finalement, on est passé d'un imaginaire politique commun, parce qu'on avait le même imaginaire politique, ça a conduit à deux grands modèles d'unité au niveau de l'Église entière. Et vous voyez, l'imaginaire de théologie politique au 3e, 4e siècle, Philippe dit pour Eusèbe de Césarée, l'Empire c'est une ellipse à deux pôles. L'empereur, il est responsable de l'unité, c'est lui qui a le pôle de l'unité. D'ailleurs, c'est lui qui convoque les conciles. aucun des grands conciles dont nous parlons n'est convoqué par un patriarche. Donc l'empereur, il tient l'unité de l'empire, et donc il peut y avoir dans cet empire des diversités, et sont tenues par ce pôle d'unité. Et donc les églises qui, peu ou prou, s'organisent en épousant les régions de l'empire, finalement, elles sont diverses, et ce n'est pas un problème, elles sont tenues dans l'unité par le politique. Voilà. Mais en 395, l'Empire lui-même se scinde en deux parts, qui sont théoriquement unies. Hein. Voilà. Et puis, par la suite, Rome va tomber aux mains des barbares. Autrement dit, Rome va être la seule région ecclésiastique qui se trouve toute seule sur un territoire politique donné, alors qu'en Orient, il y aura toujours quatre grandes régions sur le même territoire politique, dans la même unité politique. Autrement dit, avec le même imaginaire de théologie politique, cette ellipse à deux pôles, elle va être reversible. Le pôle d'unité va être pris par l'Église, Rome, et au milieu de la diversité des petits États barbares. Donc vous voyez, d'un côté, un grand empire qui tient toute la diversité dans l'unité, et de l'autre côté, une Église qui va essayer de maintenir l'unité alors que le politique est fragmenté. Ça va conduire à deux grands modèles d'unité. Un modèle de type communionnel. J'ai demandé la parole à Julia parce que ça illustre exactement sa dernière phrase. Hein. Vous voyez, un modèle de diversité ecclésiale tenu par l'empereur. Et puis un modèle centralisé tenu par le personnage qui tient, c'est le pape de Rome, l'évêque de Rome. Hein, la diversité des royaumes à l'intérieur d'une poche ecclésiale qui essaye de maintenir l'unité, ce qui conduira à créer l'Empire d'Occident par Charlemagne. Hein. Voilà. Et là, donc, là, c'était le modèle communionnel, déjà à gauche, et quand Rome se trouve en dehors, que l'Empire romain est lui-même en deux parts. Hein. Mais avant 395, il faut remettre Rome dans cette même grande ellipse. Hein. Voilà. Donc ça, c'est uniquement pour dire que ressouligner ce qu'on a déjà souligné, c'est qu'il y a des facteurs non doctrinaux de division. Et d'ailleurs, il y en a aussi pour la réconciliation. Un professeur qui était directeur de l'Institut d'études œcuméniques, hein, Hervé Legrand, disait « Le théologien qui travaille en œcuménisme, c'est comme un douanier. » Quand arrive la valise où il y a l'étiquette contentieux doctrinal, il ouvre, il trouve deux, trois petites affaires, mais il cherche le double fond. Et le double fond, ben, c'est toutes ces affaires politiques, c'est aussi ces philosophies, ces visions du monde qui font que, le contentieux, il est lourd dans son double fond. Et là, je vous ai mis un texte d'une théologienne luthérienne. Les identités des églises sont marquées par leur contexte historique et culturel, et les divisions sont d'autant plus profondes et complexes qu'elles résultent d'un enchevêtrement de circonstances historiques, d'un contexte sociopolitique, de situations contextuelles auxquelles l'appartenance religieuse confère souvent une visibilité. Et donc, si on apprend à reconnaître cela, il y a des consensus qu'on peut dire différenciés qui seraient possibles. Et nous, de point de vue de l'Église catholique romaine, on a pu signer des déclarations de foi christologiques communes avec toutes les églises avec lesquelles on s'est trouvés séparés à la suite des grands conciles qui auraient dû nous réunir et qui nous ont divisés. Avec toutes, on a dit, nous professons la même foi dans le Christ. Mais pour telle raison, pour ceci, pour cela, on ne s'est pas compris. Autrement dit, on a vécu pendant 15 siècles en regardant l'autre avec une étiquette hérétique sur le front. Et maintenant, il faut qu'on réapprenne autrement. Mais l'orthodoxie byzantine est aussi en dialogue avec ces églises-là. Voilà. Voilà ce que je voulait dire. La deuxième chose, c'est qu'une autre leçon importante, c'est qu'à l'heure actuelle, j'anticipe, hein, mais à l'heure actuelle, on le verra cet après-midi, ces modèles sont diversement en travail et leur rencontre les travaille de l'intérieur. Hein. Voilà, par exemple, le fameux uniatisme dont on a parlé, qui est un véritable cactus dans nos relations avec l'orthodoxie, c'est aussi, prenons-en au moins la part de chance, ça veut dire que notre unité, elle n'est pas liée à parler tous le latin, à avoir tous la même manière de célébrer. Voilà. Et puis, autant dans l'émission qui sont parties de Constantinople vers les Slaves ont permis la création de nouvelles églises, autant l'entreprise missionnaire romaine avec ce modèle d'unité, ça n'a fait qu'amplifier le territoire, si on peut dire encore ceci, patriarcal, hein, d'Occident, et que si vous discutez avec les églises africaines ou en Amérique du Sud, etc., il y a aussi ce désir de pouvoir avoir une sorte de discernement propre de l'évangile dans une culture et que ce n'est pas à Rome que ça peut se décider. Voilà. Et donc, de ça, ben, on a des traces dans Vatican II, hein, l'approfondissement du mystère de l'Église présent dans chaque Église locale, etc. Voilà, j'en dis pas plus, c'est pour dire que il y a deux modèles d'unité qui nous ont façonnés, qui nous structurent encore, qui façonnent nos mentalités. Et en même temps, en ce moment, en tout cas, moi, je ne peux pas dire comment l'orthodoxie est travaillée par l'autre, mais on voit bien que la convocation d'un concile pour une église conciliaire n'est pas si simple que cela. Alors que nous, qui ne sommes pas conciliaires, il suffit qu'un pape dise concile, et il y a concile. Voyez ? Donc, on a chacun nos chances et nos limites. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, c'est justement, ça travaille sur les chances et les limites. Voilà.
Merci pour cette relecture et reprécision. Effectivement, pour revenir à cet élément de comment on le travaille ensemble, c'est la question de conciliarité et primauté. En fait, l'Église d'Occident travaille davantage justement la question de synodalité, mais les orthodoxes ont un besoin considérable de retravailler la primauté. Et je vois une main se lever. Les différences au niveau ecclésial existaient, mais disons, le rôle de l'empereur était tel qu'il pouvait, lorsqu'il y avait le besoin théologique, mais également politique, rassembler le concile. Néanmoins, il faut aussi dire que le concile n'a pas été travaillé par l'empereur. L'empereur pouvait être présent, souvent il n'était pas. Le déroulement de concile en tant que tel, c'est les évêques qui le présidaient, qui organisaient des sessions et le travail en interne de l'Église. Néanmoins, c'est d'abord pour le premier concile œcuménique, c'était indispensable que l'empereur le fasse parce qu'il a rendu possible cette réunion en mettant à disposition les moyens de l'Empire, les transports, cela. Mais voilà, l'influence pouvait être de l'ordre politique. Cela ne concernera pas tous les conciles, mais certains, oui, effectivement. Est-ce que j'ai répondu ?
Oui, oui. Voilà, elle va dire ça maintenant. Hein, voilà. Parce que si je le disais, c'est, vous voyez, c'est un modèle pour un peu penser les mentalités que j'ai essayé de dresser. Hein, voilà. Et ça perdure, même si on n'est plus dans la même situation politique. Voilà.
Oui, il y a une autre question là, mais on va répondre à votre question plus tard. Vous vouliez réagir, oui? Effectivement, pour cette période-là, c'était une question aussi importante. Et on a vu que les divisions en interne, enfin le monde oriental, sont apparues justement pour la non-compréhension de la langue. D'accord. La question qui vient d'être posée, c'est comment comprendre le dialogue qui s'établit au sein des églises par rapport à l'utilisation de la langue. Donc moi, je revenais en ce qui concerne l'Orient. On a vu déjà une forte présence en fait, de ces difficultés dans la façon dont les Grecs et les Syriaques allaient se comprendre, parce que la terminologie était diverse. Justement, la question de ce qu'on entendait par hypostasis ou prosopon, ou personne qui désigne donc une personne, n'était pas similaire en langue en syriaque. Donc il fallait être plus sensible à cette terminologie, voir les concepts qui sont derrière. Or, certains autres éléments de vouloir qui va être en premier, de qui l'expression va être retenue, a fait en sorte que y a eu des distinctions. Après, c'est vrai que le contexte politique, enfin pas simplement politique, mais géopolitique, avait changé, qu'il n'a pas rendu possible les réunions. Et certaines réunions étaient plus motivées par le besoin de réunir l'Église sur le plan géopolitique que réellement théologique. Donc une fois qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas besoin d'être à l'écoute de cette Église, on la mettait de côté, on continuait son chemin. Ça, on l'a pu voir dans le dialogue entre les Byzantins et les Arméniens qui vient d'être mentionné. Parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où on voyait le rapprochement. Donc cette question de langue, elle est très importante. Et puis on voit aussi vis-à-vis de nos théologies respectives, en ce qui concerne par exemple Saint-Augustin, certains concepts ont eu du mal à se traduire. Par exemple, Saint-Augustin dit à un moment donné dans son ouvrage magistral qui est la Trinité, j'arrive pas à traduire le grec, la complexité de ce qui est dans la langue grecque. Là, c'est aussi la mentalité. Enfin, le Rome, c'est le système juridique, en fait. Et Grèce, ce côté oriental, il est nourri par les philosophies. Et chaque terme, même logos, dans le monde grec, il est des vingtaines de définitions, ce qu'on peut entendre. Et une fois que vous intégrez, vous faites entrer un terme philosophique en théologie, il explose. En fait, et il demande d'être reçu et réinterprété.
Est-ce que tu dirais que l'Église est née à Pentecôte, et Pentecôte, c'est quand même l'événement où on peut s'entendre dans les langues différentes? Et que, est-ce qu'on est parvenu au mythe de Babel en faisant le latin comme langue officielle de l'Église, et qui maintenant s'est écroulé? Parce que ce n'est pas vrai qu'à Vatican II, tous les évêques connaissaient bien le latin. Il y a des choses très drôles qu'on peut raconter dans les coulisses. Hein. À ce niveau-là, ils avaient besoin de traducteurs, de ceci, cela. Quoi. Aujourd'hui, ce serait probablement en anglais, mais ça pose la question, est-ce qu'on peut passer d'une langue à l'autre, et quels efforts on fait pour passer d'une langue à l'autre? Alors une langue, c'est pas seulement du vocabulaire et de la grammaire, hein, c'est un monde vécu, et donc on revient au voyage au pays de l'autre, etc., participe à sa liturgie, ses gestes parlent autant que ses mots, etc. Hein, voilà. Et donc, pour moi, c'est une invitation à cultiver des rapports de différence, parce que l'anglais, c'est peut-être une belle clé pour acheter un sandwich à l'étranger ou pour faire des affaires et puis de la technologie. Mais c'est une langue qui va perdre son fondement culturel et ça devient juste une clé technique, alors que ce n'est pas ça qui va permettre de rencontrer l'autre. On va se retrouver avec un nouveau latin. Donc on a une grande question qui nous est commune, là, hein, vraiment. C'est le passage d'une langue à l'autre. Enfin, c'est ton expérience, Julia, hein. Là, tu t'exprimes en français, alors ce n'est pas ta langue. Voilà. Et tu nous permets d'entrer dans ton monde grâce à ce passage-là. Et voilà. Nous, on est français, on n'est pas très portés là-dessus, et il faut peut-être se laisser travailler.
Donc, Donc, moi, dans mon explication, je suis restée plus du côté donc, oriental, mais cela a permis aussi que par la suite, en fait, et on va voir avec les missions, l'utilisation d'autres langues a permis voilà, de communiquer l'orthodoxie en slavon, en grec, et aujourd'hui dans des langues, voilà, des pays qu'on habite. Et la langue n'a jamais posé problème, parce que pour nous, en fait, la théologie telle que maintient l'unité de l'Église, à savoir la théologie exprimée dans ces conciles, exprime l'unité. Donc nous, aujourd'hui, les questions en orthodoxie ne portent plus sur la foi, l'expression de la foi, mais plus sur le vécu de cette foi, qui encore une fois reste marquée par les contextes.
C'est vrai que vous avez ça a été traduit, vous avez eu un génie de la traduction, ça, vous avez pu donner des sens à des nouvelles églises locales, alors que nous, on a agrandi nos territoires de notre église. Et en même temps, on peut se poser une autre question, c'est que le slavon, aujourd'hui, ce n'est pas la langue des Russes. Et donc, on est toujours en train de fossiliser des langues, alors qu'il faut sans arrêt être dans ce climat de traduction. Quoi. Enfin, c'est un problème compliqué. Hein.
On y vient, avant peut-être la pause, juste dire que oui, là, tous ces facteurs qui étaient des facteurs de contexte, néanmoins, il y a eu des pratiques qui existaient, liturgiques et autres, dans nos diverses églises, qui ne posaient pas problème. Mais le moment autre, enfin non théologique, qui ont créé cet estrangement, a fait que, néanmoins, on se rend compte de cette diversité qui n'est plus un enrichissement par la diversité de l'autre, mais ce devient un lieu de division. Et si vous voulez, c'est un des moments donc, de rapport particulier lié à ce phénomène donc, de mission que les églises vont avoir maintenant entre les deux empires, Orient et Occident, avec les peuples slaves. Donc, encore une fois, une nouvelle contextualisation, que les rencontres vont s'effectuer. Et puis, à ce moment-là, les Byzantins, donc, avec déjà donc, ce geste Charlemagne, enfin, 800, donc le nouveau empire, maintenant, on va aller regarder plus sur ce qui nous différencie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils voient apparaître, enfin, maintenant, on va voir vraiment ce qui n'est pas correct chez l'autre. La grande question théologique, c'était le filioque. Oui, filioque, je vais l'expliquer. L'introduction, là, je peux me laisser corriger, de ce texte. Enfin, on est au concile du Credo. Donc, on retourne sur ce concile de Nicée-Constantinople, où il a été dit, donc je crois, on définit la croyance en Dieu le Père, le Jésus-Christ, enfin, fils de Dieu, et puis en Esprit Saint, qui est donateur de vie et qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. C'était le credo qui a été reçu donc, de ce concile. Or, on voit le filioque, donc en latin, filio, fils, et avec le Fils, donc procède du Père et du Fils, donc dans le symbole de foi qui vraisemblablement a été apparu au VIe siècle. Donc là, on est quand même en 1054. Donc ça veut dire que ça a existé avant et puis on était en union. C'est quand même un symbole donc, qui se diffuse dans l'Église d'Occident et devient la doctrine officielle sous Charlemagne qui va faire le sujet de controverse avec l'Orient, l'accusant d'hérésie pour ne pas employer cet ajout du filioque. Les orientaux vont dire, mais ce n'est pas ce qu'on a reçu du concile, ni de Nicée, ni de Constantinople. Finalement, le concile de Constantinople, cette partie-là, n'a été pas reçue lors du troisième concile œcuménique, mais que vers le quatrième. Donc il y a quand même un enjeu de réception. En tout cas, ils voient qu'il y a un ajout dans la façon de dire la foi, qui diffère. Pour les Byzantins, ils ne vont réagir donc à partir de 850, donc là où c'est devenu un contexte plus compliqué politiquement, en considérant que cet ajout constitue une altération de la foi commune de toute l'Église. De plus, cet amendement est pour les orthodoxes, et encore une fois, pour la logique qui était celle et le contexte du monde oriental, qui avait longtemps eu de problèmes à penser le subordinationnisme. Enfin, on n'entre pas dans toutes les subtilités des théologies, mais les rapports entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans les débats théologiques, en fait, il y avait toujours ce danger de subordonner l'une personne de Sainte-Trinité à l'autre. Et donc, quand ils ont lu ça, en fait, pour eux, c'était un retour, en fait, à cette conception-là de subordinationniste. Et c'était théologiquement incorrect. Pour les orientaux, le Saint-Esprit n'a de cause que dans le Père. D'ailleurs, si tel n'est pas le cas, la dignité, pour eux, du Saint-Esprit est remise en question, ainsi que son égalité avec les autres personnes de la Trinité. Cette divergence qui était d'ordre théologique rencontre une autre sur le plan de la mission et donc de l'influence. En effet, en cette période, se pose également la question de la mission en direction des peuples slaves, qui vont être donc ce peuple entre les deux. Donc je connais bien parce que je viens du peuple serbe qui, si vous voulez, était entre les deux. Enfin, on reçoit d'abord le premier fondateur de la lignée des Nemanjić, dont le fils est Saint Sava, qui a évangélisé le peuple serbe. Son père reçoit la couronne donc de Occident. Les deux voulaient avoir un impact sur ces peuples, parce que c'était aussi un peuple qui pouvait protéger, être protecteur, donc il fallait l'avoir de son côté. Et finalement, Constantinople réagit et, par les biais de mariage, en fait, établissent l'union. Et c'est une fois, donc l'appartenance à l'Empire détermine aussi l'appartenance ecclésiale. Donc, désireux donc d'éteindre ou avoir ce contact avec l'Orient, le pape Nicolas Ier se lève contre les avancées qui étaient envoyées par les Byzantins et le patriarche de Constantinople, Photios Ier. Et là, l'enjeu commence. Donc, dans cet acte, les orthodoxes lisent une autre cause qui va s'avérer être essentielle quant à l'apparition du schisme. Il s'agit de la volonté de pape de transformer une primauté morale, donc, c'est-à-dire une présidence d'amour au sein des églises locales, en un pouvoir juridique direct sur ces églises, au mépris donc des droits traditionnels des évêques, des métropolitains, des patriarches. Là, en l'occurrence, c'est vrai que là, c'est la grande question de primauté sur laquelle on discute encore, sur la façon de relire justement cette histoire commune et un texte fondamental qui a été fait sur cette relecture des églises du premier millénaire dans la commission mixte de travail international orthodoxe et catholique. Ce que les orthodoxes, par rapport à la primauté, n'arrivaient pas à recevoir, c'est en fait ils reconnaissaient la primauté d'amour au pape de Rome lorsqu'il y avait un conflit entre des évêques divers, des évêques territoriaux en Orient. Ils pouvaient solliciter pape de Rome pour essayer donc de négocier et, vis-à-vis donc de ce conflit-là. Or, pour les orthodoxes, un évêque ne peut pas avoir l'impact et décider des choses sur le territoire de l'autre évêque. Donc, cela dit, quand, par exemple, même le patriarche de Serbie veut venir en France, il doit demander l'autorisation de l'évêque qui est en France pour pouvoir venir. Donc il ne peut pas se mêler des décisions de ce que va faire l'évêque. Donc c'est simplement s'il y a un conflit au sein du diocèse, le patriarche, la seule possibilité qu'il peut faire, c'est réunir l'assemblée, et alors là, on discute tous sur le problème qui advient. Mais le patriarche ne peut rien faire sur le territoire d'un autre évêque.
Oui, le principe de subsidiarité qui joue est important. Ça veut dire que c'est meilleur de régler les affaires sur place. Et donc, un conflit dans un diocèse, si on n'y arrive pas, donc on cherche à le régler. Si on n'y arrive pas, on fait appel au diocèse voisin, ça, synode provincial. On n'y arrive pas, il y a encore la grande région qui peut jouer. Et Rome n'intervenait que comme un peu quand on fait appel. quand on n'a pas réussi à tous ces niveaux-là. Mais c'est, vous voyez, le système, c'est que on est plus, on cherche à résoudre les conflits en, comment dirais-je, de manière synodale et non pas de manière juridique par une tête qui fait qu'on va imposer une définition à tout le monde pour régler l'affaire. Voilà, c'est ça la grande différence. Alors pour l'histoire de l'ajout, donc il procède du père et donc l'Occident, dans des tas de circonstances qu'on ne va pas raconter, ajoute et du fils. Il faut comprendre deux choses. La première, c'est le contexte qui a vu l'apparition de cela. C'est que c'est une résurgence de tendances qui mettaient à mal la divinité du Christ. Oui, c'est toujours ces variations sur un thème connu, et notamment en Espagne. Et donc, dire « il procède du père et du fils » mettait en évidence le rôle capital du fils. Donc ça, c'est une chose qui peut se comprendre. La deuxième chose, c'est que le terme latin « procedere » n'a pas la même teneur que le terme grec qui soi-disant dit la même chose. Le terme grec pose un rapport d'origine absolue dans le père. Alors que nous, on pourrait dire que c'est, l'aspect... Concrètement, le Saint-Esprit s'origine dans le Père, mais il nous a été livré. C'est l'Esprit qui planait sur le Christ qui nous est livré. Et là-dessus, on est aujourd'hui tout à fait dans un consensus différencié. Tout le monde est d'accord que ça vient du Père par le Fils. Voilà. Mais on ne s'est pas compris. Seulement, il y avait quand même un problème ecclésiologique là-dedans. C'est une chose qu'on a décidée ensemble. Il y en a un qui peut se permettre de la changer. Et ça, à mon avis, c'est plus grave. Voilà. C'est le vrai dissensus, c'est plutôt du côté du renforcement du pouvoir. Alors, il faut savoir quand même que Paul VI, chaque fois, et les papes successifs, chaque fois qu'ils rencontrent un patriarche d'Orient, ils ne se gênent pas pour dire dire avec lui le credo sans dire le filioque, sans dire et du fils. Et les églises unies à Rome qui parlent grec, ou qui sont des églises orientales, disent le credo sans le filioque. Autrement dit, ce n'est pas un obstacle. Voilà. Et Michel Stavroux, qui est un des collègues de notre ami, qui est un grand théologien systématique orthodoxe en France, dit qu'on est dans le registre du consensus différencié et que si on le désire, c'est une chose sur laquelle on pourrait s'entendre. Mais vous voyez, le problème, il est en œcuménisme. C'est comme dans beaucoup d'endroits, c'est l'inverse de la chanson « La bonne du curé ». Vous vous souvenez de la chanson « La bonne du curé »« Je voudrais bien, mais je peux point ». Non ? Ben, en fait, c'est « je veux pas, et donc je peux pas ». Donc, il y a une ouverture à l'autre, et c'est là où on retrouve la dimension vraiment de plus spirituelle, où si on veut vraiment l'unité, on peut admettre des diversités. Mais quand on a inversé cette problématique, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais...
Voilà. On arrive progressivement à la fin de cette matinée. Donc, le deuxième point aussi, dans la façon dont les orthodoxes le comprennent, cette primauté qui se contextualise concrètement, comme Anne-Marie venait de dire, c'est donc le XIe siècle, avec la réforme grégorienne qui avait lieu donc en Occident, qui permettait en fait de libérer le pape des empereurs germaniques et donc les églises, donc des féodaux, va tenter finalement de soumettre directement au pape les évêques, également les rois, donc là on a la théorie fameuse de Glèves, et va revendiquer une infaillibilité donc, de ce souverain. Celle-ci va être discutée plus tard. Oui.
Peut-être on peut y revenir au début d'après-midi, parce que justement les textes, le dialogue œcuménique actuel que nous avons touche sur cette question-là. Et ce sera une bonne manière de l'introduire, hein, parce que je pense qu'il faut faire la pause là maintenant. J'ai des signes de là-bas.
Très bien. Ben voilà, je vais, en fait, on va continuer là après, et je vous laisserai quelques musiques pour entendre, parce qu'on va entrer dans le monde slave et le développement de cette histoire.